Et après plusieurs mois de discussion, on s'est mis d'accord que j'allais être le formateur pour Crown au Québec, à former les animateurs qui, en retour, enseigneraient le matériel dans leurs églises respectives sur la gestion des finances selon les principes de la parole de Dieu. La Bible a beaucoup à dire sur les finances. Selon les experts, il y a 2350 versets dans la parole de Dieu qui parlent des finances. Jésus a parlé plus sur les finances que n'importe quel autre sujet. C'est spirituel, l'argent. Et mon but ce matin, c'est de vous parler sur les finances et vous introduire à ce que la Bible parle sur les finances et vous encourager, comme pour moi, à être de meilleurs disciples de Jésus-Christ dans la gestion des finances. Parce que le but premier de Crown, le but premier du matériel de Crown, c'est de glorifier Dieu. C'est pas de faire du budget. C'est pas de sortir de l'endettement. C'est pas de donner plus généreusement. Bien que le matériel va encourager à faire tout cela et plus encore. Mais le but premier du matériel de Crown, c'est de glorifier Jésus-Christ. Dans la manière que l'on gère l'abondance qu'il nous donne. Plus de 60% de la population de la Terre vivent avec moins de 2 $ par jour. Vous allez me dire, oui, mais ça coûte bien plus cher au Canada, vivre. OK. Mais on est dans une telle abondance. Qu'est-ce qu'on fait avec cette abondance? À nous voir vivre, parfois, on pourrait croire qu'on va passer l'éternité ici. Tellement on augmente notre confort de plus en plus. Au lieu de se consacrer à l'avancement du royaume de Dieu. Alors, c'est ma mission ce matin. Tournez avec moi dans 2 Rois chapitre 4. Une belle histoire. Dans 2 Rois, chapitre 4, les versets 1 à 7, on lit « Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté tous ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y en a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu, et il lui dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » J'ai une introduction spéciale pour vous. J'ai amené un film, il est en anglais. Je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de texte dans le film, il y a beaucoup de graphiques. Vous devriez tous comprendre le message du film, ça dure environ 7 minutes. Alors, le film était en français après tout. Prions Dieu. Éternel, notre Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, cache-moi derrière ta parole. Bénis ton peuple qui sont ici pour t'entendre, toi, pas moi. Parle à nos cœurs. Glorifie ton nom dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. C'est pas d'hier l'endettement. Mais moi, je crois que c'est un des résultats de la chute. Je ne crois pas qu'il y aurait eu d'endettement sans la chute. Parce qu'on aurait appliqué une règle d'égalité dont la Bible parle dans 2 Corinthiens chapitre 8 et 9, que nous n'appliquons pas. De sorte que celui qui en avait plus n'en avait pas de trop, et celui qui n'en avait moins ne manquait de rien. Dieu a pourvu. Dieu est fidèle. Dieu est bon. On va parler d'abord de la dette et du créancier. Croyez-vous que le mari avait planifié mourir avant de rembourser sa dette? Bien sûr que non. Un endettement, c'est toujours un compromis. Toujours. Mais je n'ai pas dit que c'est toujours péché. Mais ça peut l'être. C'est à vous de juger devant Dieu, avec une conscience transparente devant Dieu, et de lui demander. Mais comment peu souvent on consulte l'Éternel dans nos décisions financières? Une des raisons pour laquelle je crois que l'endettement est toujours un compromis, c'est que ça présume sur l'avenir. On présume qu'on va garder notre job, qu'on aura la santé, la capacité de rembourser les 48 paiements ou les 25 ans d'hypothèque qu'on engage. Oui, mais François, tu n'es quand même pas en train de dire qu'on devrait acheter une maison content? Non. Mais une des premières sources de crise dans l'endettement, c'est l'achat d'une maison plus chère qu'on peut se permettre. C'est pas moi qui le dis, c'est les experts. Un autre facteur, je me demande si la veuve a été consultée pour la dette. Je me demande si la décision a été prise, comme je l'enseigne, à l'unanimité. Moi, je crois que la Bible nous enseigne à conserver l'unité de la paix, incluant dans le foyer, incluant dans les finances. Moi, je suis persuadé qu'il y a des femmes ici ce matin qui ne savent pas combien leur mari gagne, qui ne savent pas non plus combien leur mari dépense, ou où il dépense. Moi, je ne crois pas que ça l'honore Dieu, ça. Tournez avec moi dans 1 Pierre, chapitre 3, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 7, on lit. « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la! » comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. La dernière fois que j'ai prêché sur ce texte, une des sœurs est venue me voir après le message et elle était réjouie que je n'avais pas parlé sur la partie comme un sexe plus faible. Alors soyez rassurés, ce n'est pas là-dessus que je veux parler. Ce que je veux souligner, c'est au mari, le commandement de Dieu à honorer nos femmes. Comment honore-t-on nos femmes? Il y a plusieurs manières qu'on peut honorer nos femmes. Et une des manières que je crois que l'on peut honorer nos femmes, c'est en leur demandant leur avis. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Un complément. Dieu a donné une intelligence aux femmes. Mais il y a des hommes pour qui ce n'est pas toujours évident. Qu'est-ce que ça a rapport avec les finances? Tout. Selon les experts sur le mariage, la cause principale des conflits et des divorces dans le mariage, c'est les finances. On a besoin d'apprendre, mes frères, à honorer nos femmes, en sollicitant leur opinion et en refusant de prendre une décision jusqu'à ce qu'on ait une unanimité. Et parfois, je me fais dire, « François, ça n'a pas d'allure ce que tu dis. Ce qui arrive, si on n'est pas unanime, on ne prend pas de décision. Voyons donc, s'il y a une décision à prendre, qu'est-ce que je fais? On n'est toujours pas d'accord, mais il y a une décision à prendre. Allez consulter un homme de Dieu. Une femme de Dieu. Croyez-vous vraiment que Dieu honore ceux qui l'honorent? 1 Samuel 2:30. Croyez-vous vraiment que si vous me cherchez, vous me trouverez? Même plus que ça, dans Ésaïe chapitre 65, le verset 1, Dieu dit, j'ai exaucé celui qui n'a rien demandé. Je me suis laissé trouver par celui qui ne me cherchait pas. Ce n'est pas votre histoire. Moi, je ne cherchais pas Dieu. On doit apprendre à honorer nos femmes. Dieu a pourvu à des hommes et des femmes plus matures que vous dans l'Église pour vous aider à prendre des décisions financières qui honoreraient son nom. Croyez-vous que Dieu peut utiliser un homme ou une femme pour vous révéler sa volonté? Croyez-vous cela? Est-ce que c'est notre tendance, oui, et notre habitude que de solliciter la pensée de Dieu lorsqu'on a des décisions à prendre dans le domaine financier? Ah, si on faisait cela! Le royaume de Dieu serait enrichi. Des besoins seraient remplis. Dieu serait glorifié. Et j'ajoute, et nous serions enrichis, non seulement dans ce siècle, mais dans le siècle à venir. Est-ce qu'on croit ça? J'avais le privilège hier d'amener une conférence de formation et 4 des vôtres étaient présents pour être formés. Je me réjouis de ça. Dans une église qui a commencé le matériel, il y avait un groupe de 5 couples. Et parmi les 5 couples, il y avait 2 couples qui ont partagé les tensions financières qui existaient entre eux à cause des finances. On ne fera pas un sondage ce matin pour savoir comment ça va dans vos finances et comment ça va dans votre mariage. Mais surtout les frères, je vous exhorte à chercher la face de Dieu et la volonté de Dieu dans ce domaine. Passons au créancier. Le créancier était un homme dur. Il aurait sans doute utilisé le langage aujourd'hui de « paye ». Tu me dois? Paye! Il a probablement manqué la classe de Luc 6, 36, lui. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Il a probablement manqué la classe de Michée 6, 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Pratiquer la justice dans l'Ancien Testament, c'est presque toujours en rapport avec les veuves, les orphelins et les étrangers. C'est une des raisons principales pour la déportation du peuple d'Israël en Babylone. On a un Dieu tellement miséricordieux. Dieu était prêt à retirer Nebuchadnezzar et son armée lorsque Sédécias a fait le dernier roi d'Israël, a fait l'annonce qu'ils allaient relâcher les esclaves hébreux, un autre commandement qu'Israël n'a jamais obéi. Mais là, Sédécias avait fait une proclamation et les chefs d'Israël étaient d'accord. On va relâcher les esclaves. Vous lirez dans Jérémie. Et Sédécias a changé d'idée. Et les anciens d'Israël ont changé d'idée. Et Dieu leur dit, « J'aurais retiré Nebuchadnezzar à cause de cette décision, mais parce que vous avez changé d'idée, certainement que vous allez être déportés, ceux qui ne seront pas tués. » Mais ici, notre créancier voit plutôt l'opportunité de saisir 2 jeunes esclaves probablement n'ayant pas en tête de relâcher les enfants à l'année sabbatique, 7 ans, mais les garder esclaves jusqu'à la mort. Et la veuve, sans mari et sans fils pour en prendre soin, à cette époque, allait probablement être livrée à la prostitution ou mendiante. À moins que la famille choisisse d'en prendre soin. Et comme à cette époque, dans notre époque, on n'a pas beaucoup changé. À un niveau en particulier. Au début des années 80, le Seigneur a touché mon cœur pour les femmes monoparentales, qui, pour la plupart, étaient livrées à elles-mêmes. Sans mari, père des enfants, ni présent, ni prêt à soutenir. Et dans la plupart des cas, les familles n'en prenaient pas soin. Mais elles avaient des familles, ces femmes-là. Le Seigneur nous a mis à cœur, ma femme et moi, d'exercer un ministère auprès des femmes monoparentales. On n'a pas beaucoup changé. Dieu cherche à travailler dans nos cœurs. Et ce qu'il veut, c'est tout notre cœur. Merci. Je parlais tout à l'heure d'honorer nos femmes. Je vais vous permettre de rire un peu de moi, c'est correct. Ça ne fut pas toujours le cas non plus dans ma vie, bien que ça m'aurait épargné bien des malheurs, à moi et à ma famille. En 1972, plusieurs d'entre vous n'étiez même pas nés, ça faisait environ un an qu'on était mariés, on vivait en appartement, et un de mes magasins favoris, c'était Pascal, à Ottawa. Un magasin où il y avait de tout. Je ne connaissais pas Dieu, le Seigneur m'a sauvé en 1976. Et je me dirigeais chez Pascal pour m'acheter une ligne à pêche. J'étais un consommateur impulsif, pas très sage. Alors, je m'en vais m'acheter une ligne à pêche. Et dans le magasin, en passant, je vois un beau bateau. Je me suis acheté un bateau. Un bateau, pas de moteur, ça va pas loin. Fait que j'ai acheté un moteur. Ça prend une remorque pour tirer le bateau. J'ai acheté une remorque. Et quand je suis allé en haut pour remplir le formulaire de crédit, ils sont tellement gentils, ce monde. En remplissant le formulaire, ils me demandaient combien je gagnais, combien mon épouse gagnait. Je pouvais voir facilement que je peux me permettre les paiements, pas de problème. Fait que là, je suis allé au garage faire installer une boule pour la remorque et je suis allé chercher mon bateau. Mais là, il y avait un autre problème. On vivait en appartement et j'avais un espace de stationnement. Je pense qu'on s'en est servi 6 ou 7 fois. Et à la fin de l'été, avant l'hiver, je l'ai vendu pour moins que la moitié de ce que j'avais payé. Saviez-vous que la moyenne de carte de crédit par personne au Canada aujourd'hui, c'est 4 par personne? Alors nous, on avait 4 enfants, 6 personnes. Ça fait 24 cartes. Il fut un temps où je remplissais la moyenne à moi seul. Mais je n'ai pas sollicité l'opinion de ma femme. Honore ta femme. Dans Proverbe 22, verset 7, la Bible dit « Le riche domine sur le pauvre et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. » Encore une fois, c'est certain dans ma tête que le mari ici n'a pas planifié exposer sa famille à la détresse. T'es pas méchant. Mais est-ce qu'on cherche à connaître la volonté de Dieu? Moi, je suis de plus en plus convaincu dans ma vie chrétienne que connaître la volonté de Dieu, ce n'est pas difficile. Parfois, c'est compliqué un petit peu, mais ce n'est pas difficile. Non, ce qui est vraiment difficile, je crois, c'est est-ce que je veux ce que Dieu veut? Est-ce que je veux ce que Dieu veut? Est-ce que je suis vraiment prêt à faire ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que je cherche même à savoir ce que Dieu veut? Vous avez un beau bâtiment et je suis honoré d'être parmi vous ce matin. C'est un privilège pour moi de parler de Dieu, parler de sa volonté. Je vous encourage à chercher la face de Dieu dans le domaine des finances. Celui qui prête est esclave de celui qui emprunte. Mais il y a un autre verset qui dit que celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Dans Proverbe 19, 17. Est-ce qu'on peut avoir un meilleur débiteur? Débiteur, c'est celui à qui nous doit. Est-ce qu'on peut avoir un meilleur débiteur que l'Éternel? Est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un avec un meilleur code de crédit que l'Éternel? Ce que je suis en train de dire, est-ce que Dieu va payer ses dettes? Pensez-vous? Moi, je penserais que oui. On lit dans Romains que Dieu est celui qui a le pouvoir d'accomplir ce qu'il promet. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus du mari? Il est fils de prophète. Mais fils de prophète, dans deux rois, dans Jérémie, et ailleurs, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas toujours synonyme d'un homme de Dieu. Plusieurs de ces prophètes étaient des faux prophètes. Maintenant, est-ce que c'est le cas de ce mari? On ne sait pas. Parlons un peu d'Élisée. Élisée, lui, c'est le vrai Dieu. Lui, c'est vraiment un homme de Dieu. Élisée a été formé par Élie. Élie, ce n'est pas un toute-pique non plus, là. Je suis un peu bilingue, vous me suivez. Élie, c'est celui qui a fait descendre le feu du ciel avec les prophètes de Baal. Le feu qui a consommé l'autel, l'eau, le sacrifice, tout. Et qui a fait tuer ensuite les 450 prophètes de Baal. Élie est celui qui a ressuscité le fils de la veuve à Sarepta. Élie est celui qui, selon Jacques ou Pierre, était un homme de la même nature que nous, et il prie à Dieu pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans. Et il prie à nouveau, puis il est mouillé. Élie, juste avant son départ, demande à Élisée, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je quitte? » Il savait qu'il allait quitter. Et Élie dit à Élisée, « Si tu me vois partir, tu vas avoir ce que tu me demandes. Mais si tu ne me vois pas partir, tu ne l'auras pas. » Maintenant, qu'est-ce que Élisée demande? Il demande que j'aie une double portion de ton esprit. C'est l'équivalent de dire, « Moi, là, je veux 2 fois ta puissance. » Hey, ça va être puissant, ça. Élie, c'est celui qui est enlevé par un char de feu. Il y en a juste un autre qui n'a pas connu la mort, Enoch. Élie, c'est un homme de Dieu. Et c'est lui qui a formé Élisée. Et Élisée le voit partir. Et juste avant qu'il quitte, Élie avait fendu l'eau du Jourdain avec son manteau, juste pour que lui et Élisée ne se mouillent pas les pieds. Il aurait pu faire le tour, il aurait pu prendre une barque. Ce n'était pas une crise de guerre, là. Il n'y avait pas besoin de passer à sec. Mais il voulait démontrer un signe à Élisée. Parce que dès qu'Élie est enlevé, Élisée, ne sachant pas s'il a vraiment reçu ce qu'il a demandé, il ne s'est pas senti différent. Je ne me sentais pas bien ben différent, moi, quand j'ai accepté le Seigneur. J'ai vu des changements, par exemple. Alors, Élisée ramasse le manteau d'Élie et fend lui aussi les eaux pour traverser à nouveau le Jourdain à sec, juste pour ne pas se mouiller les pieds, mais surtout pour confirmer qu'il avait obtenu de Dieu ce qu'il avait demandé. C'est vers cet homme de Dieu que cette veuve se tourne. Parce que lui, c'est vraiment le vrai Dieu. Et lorsque la veuve reçoit la visite d'Élisée, Élisée lui demande, « Qu'as-tu? » Et typique de nous, rien. On n'a rien. Alors, si j'avais plus, je donnerais plus. Ah oui? Tu gagnes-tu plus aujourd'hui que tu gagnais il y a 20 ans? Est-ce qu'on se pose des questions comme ça? Alors, la veuve doit admettre qu'elle a un vase d'huile. C'est quoi ça? Un de mes héros, moi, dans la Bible, c'est le petit gars dans Jean avec le petit lunch. Moi, je l'appelle comme ça, le petit gars avec le petit lunch. Mais il a osé donner son petit lunch à Jésus-Christ. Dieu prend des petits lunchs. Si tu penses que tu as beaucoup à offrir, tu n'es pas dans la bonne gang. Mais si tu te sens un peu hypocrite parfois, là, tu es dans la bonne gang. Et si tu sens que tu n'as rien à offrir, tu es dans la bonne gang. Mais donne ce que tu as. Ton petit lunch. À celui qui peut faire des miracles avec des petits lunchs. Vous connaissez l'histoire, Jésus a nourri 5000 personnes avec ce petit lunch. Juste les hommes, sans compter les femmes et les enfants. Moi, je suis certain qu'on va le voir, ce petit gars-là, ou celle. Et qu'on va pouvoir l'identifier comme étant le petit gars avec le petit lunch. Tout comme on va pouvoir identifier la pauvre veuve qui a donné un quart de sou. Et 2000 ans plus tard, on en parle encore de elle. Est-ce que Dieu honore ceux qui l'honorent? J'ai rien. Mais Élisée lui dit, porte-moi le vase. Et il lui donne ensuite des instructions à savoir quoi faire. Et il lui dit, « Va avec tes fils chercher des vases. » Je crois que c'est la volonté de Dieu qu'on implique nos enfants dans nos vies, dans nos activités. Pardon. Lorsqu'on a bâti à l'église de Gatineau en 1983 le temple, l'année suivante, il fallait s'occuper du paysagement. Seigneur nous a mis à cœur, ma femme et moi, de s'engager avec quelques autres familles, avec nos enfants, à prendre des samedis durant tout l'été pour aller travailler sur le paysagement. Avec nos enfants. On aurait pu faire bien autre chose. On aurait pu les inscrire dans bien d'autres activités. Mais la vie n'est pas toute au sujet de moi. Servir, ça fait aussi partie de la vie. Servir les autres fait aussi partie de la vie. J'étais responsable de l'entraide dans notre église pendant plusieurs années et j'ai aidé à partir un groupe et un chef d'équipe pour les déménagements. Mais jusqu'à ce qu'il y ait ce chef de déménagement en place, c'est moi qui s'en occupais. Et dès que mes fils, les deux plus vieux, étaient assez vieux pour tenir un balai ou tenir une porte, je les amenais avec moi pour aider. Ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, mon fils aîné, qui a 36 ans, s'est acheté un camion. Il n'a pas besoin d'un camion, hein? En vue de faire des déménagements. Il s'est aussi acheté une remorque pour faire des déménagements. On veut entraîner nos enfants à faire la volonté de Dieu en les exposant à être avec nous engagés dans le service. Nos quatre enfants ont passé des étés au camp des Bouleaux à servir. Ils auraient pu aller travailler à l'extérieur. Puis c'est pas mal d'aller travailler à l'extérieur. Mais nous, on voulait les engager avec nous au camp des Bouleaux. J'étais directeur général de 89 à 94 au camp des Bouleaux. C'était la volonté de Dieu avec Élisée que les enfants soient impliqués dans la solution. Ils auraient pu le faire autrement. Ils auraient pu faire le miracle lui-même. Non. Dieu veut impliquer nos enfants dans nos vies. Il veut qu'ils soient témoins de sa présence, témoins de sa puissance. Croyez-vous que les enfants ont jamais oublié ça? Moi, je crois. Attention, ce n'est pas une garantie pour autant là, qu'ils vont suivre le Seigneur et qu'ils vont être fidèles. Regardez Israël. Ou même, regardez-vous vous-même. Combien de fois on crie au Seigneur pour intervenir? Le Seigneur fait quelque chose. Soit à cause de la maladie, ou pour une job, ou une intervention quelconque. Et dès que Dieu agit, on oublie. Mais c'est la volonté de Dieu, donc, qu'on implique nos enfants dans nos vies. C'est aussi la volonté de Dieu que nos voisins soient impliqués. Élisée lui dit, « Va chez tes voisins. » Dieu fait rarement les choses en secret. Dieu voulait que toute la ville sache que je suis l'Éternel. C'est moi, Dieu, il n'y en a pas d'autre. Et je suis le Dieu qui se soucie même d'une pauvre veuve. Et je suis le Dieu qui est prêt à intervenir, à faire un miracle pour la soulager de sa misère. C'est moi, Dieu. C'est comme ça que je suis. Je prends plaisir à faire du bien. Je prends plaisir à sauver. Est-ce qu'on croit ça? Élisée voulait que les voisins sachent ce que Dieu allait faire et il voulait que les voisins soient impliqués dans le miracle. C'est comme ça aussi dans nos vies. Vous vous souvenez peut-être dans Deutéronome, chapitre 6, les versets 5 à 7, ces instructions que Dieu donnait à Moïse sur le besoin que nous avons d'instruire nos enfants, afin que la prochaine génération aussi soit instruite dans les choses de Dieu. Et la prochaine encore. C'est comme ça que ça marche. Élisée savait ce qu'il allait faire et il allait opérer une délivrance que toute la ville allait connaître. Moi, je crois que c'est la volonté de Dieu qu'en tant qu'Église, on vive d'une manière à ce que l'Éternel est glorifié. Dans nos vies, là, pas juste à l'Église, dans la manière qu'on travaille. Je rappelais au groupe hier, dans la formation, que le travail précède la chute. Avez-vous déjà pensé à ça? Dieu nous a donné le travail comme une bénédiction. C'est quand la dernière fois que tu as remercié le Seigneur pour la bénédiction qu'il t'a donnée? Ta job. Ouais, mais si tu avais ma job, toi non plus, tu ne rendrais pas grâce pour ça, là. Il y a une autre bonne leçon dans ce passage. L'huile arrête au bon moment. Lequel ici peut dire qu'il sait avec certitude, quand assez est assez? Tout à l'heure, je vous ai dit que connaître la volonté de Dieu, c'est pas difficile. Mais il y a des domaines dans lesquels c'est un peu plus difficile. Ça n'en est un. Entre autres parce qu'on vit dans une société d'abondance qui croit qu'il n'y en a jamais assez. Qui vit aussi avec une perspective qu'on mérite ce qu'on a. C'est un droit. Au lieu d'être reconnaissant. Pour ce que Dieu nous donne. L'huile s'arrête. Avez-vous déjà pensé, peut-être que vous connaissiez cette histoire-là, avez-vous déjà pensé à la possibilité que si Dieu n'avait pas arrêté l'huile, elle coulerait encore aujourd'hui? Pensez-y une minute. C'est Dieu qui a permis que l'huile se reproduise jusqu'à remplir tous les vases. Est-ce que c'est possible que si Dieu n'avait pas arrêté l'huile, qu'elle coulerait encore? Ben oui. Mais Dieu, lui, il sait quand assez est assez. On a un Dieu fidèle qui prend plaisir à nous faire du bien. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on cherche même à savoir quand assez est assez? Ou si on est comme la fille de la sangsue qui dit « donne, donne ». Donne, Seigneur. Donne, Seigneur. Donne, Seigneur. Et sommes-nous comme le lépreux qui est revenu rendre grâce au Seigneur d'avoir été délivré ou comme les neuf qui ne reviennent même pas pour le remercier? Vous vous rappelez l'histoire des 10 lépreux? Et Jésus demande à celui qui revient, les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Comme toi. Non seulement on ne sait pas quand assez est assez, mais on passe notre temps à demander. Plus. Donne, Seigneur. Récemment, un jeune homme dans notre église partageait face à une promotion qu'il ne comprenait pas pourquoi son employeur ne lui avait pas donné cette promotion qu'il désirait depuis au moins 2 ans. Il dit, je ne comprends pas ça. Moi, je mérite ça, cette promotion-là. Monsieur Lexenien, avec qui j'ai renouvelé la relation parce qu'il est revenu dans l'église de Gatineau, lui aussi, me dirait quelque chose comme « j'aurais envie de le gifler ». On vit dans une société qui encourage à avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Dans ma carrière, j'ai dû engager des personnes et j'ai été constamment exposé à cette attitude avec tristesse. Surtout, entre 20 à 40 ans, cette génération-là. Ils ont une trop haute opinion d'eux-mêmes, trop souvent. Et une des qualités que je recherchais en tant qu'employeur, c'est est-ce que la personne devant moi me donne l'impression, je peux me tromper, me donne l'impression d'être enseignable. C'est l'une des qualités que je recherchais le plus. Mais qu'est-ce que ça a rapport avec être un bon vendeur? Oh, ça n'a rien rapport à être un bon vendeur comme tel, sauf que c'est plus facile à gérer comme gérant, par exemple. Parce que si quelqu'un n'est pas enseignable, comment tu fais pour gérer ça? Il n'y a rien à apprendre. En fait, ça devrait être lui le boss. Toi, tu connais rien. Lui, il arrête au bon moment. Est-ce que l'on est prêt à chercher la volonté de Dieu à savoir quand est assez? Quand est-ce qu'assez est assez, Seigneur? Psaume 37, versets 3 à 5, on lit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. » Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Est-ce qu'on est vraiment prêt à faire de l'Éternel nos délices? À faire de lui la joie de notre cœur? Lorsque notre fille, on a eu 3 garçons et une fille, lorsque notre fille Rachel est née, en 77, après avoir assisté avec mon épouse, je suis sorti de la pièce et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je remerciais le Seigneur de ce qu'il me donnait, ce que mon cœur désire, mais que moi, je ne fais pas de lui mes délices autant comme je le voudrais. Et devant ce cadeau si précieux, j'étais humilié devant Dieu. De sa générosité et sa bonté. Et ce qu'il nous demande en retour, c'est « Suis-moi, aime-moi, fais de moi tes délices. » l'un de mes sujets de prière le plus régulier, au moins une fois par jour. Je demande au Seigneur qu'il fasse de moi un homme de Dieu. C'est le plus grand désir de mon cœur. Je voudrais vous encourager tous à ce que ce soit le désir de votre cœur, à être un homme et une femme de Dieu, qui glorifie Dieu, qui l'honore et qui est disponible à le servir. Dans le manuel de Crown, on passe à travers toutes sortes de matériel. Plusieurs des leçons que je vous ai partagées ce matin font partie du cours. Vous avez 4 animateurs qui ont été formés dans l'Église. Moi, je vous encourage à suivre ce matériel-là. Et à le faire avec un cœur disposé à être, au départ, comme moi, un meilleur disciple de Jésus-Christ. Dans Matthieu 28, Jésus a dit au verset 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pour qu'en retour, eux aussi aillent annoncer et faire à nouveau des disciples en les baptisant et en leur enseignant. Pour qu'ensuite, eux autres aussi. Et c'est ça la chaîne. Le plan de Dieu, c'est l'Église locale. C'est l'Église. C'est ça le plan de Dieu. Et moi, je suis constamment émerveillé de ce que Dieu nous a confié, ce qu'il avait de plus précieux, son Église. Il aurait pu laisser ça aux anges, et eux auraient tout le temps fait sa volonté sans jamais s'argumenter comme nous. Mais ce n'est pas les anges qui ont été créés à son image. Ce n'est pas pour les anges que Jésus-Christ est mort à la croix et ressuscité. C'est pour vous et moi. Courbons-nous. Père du ciel, notre Dieu, puissant de Jacob, là j'aime ça ce nom-là, tu te révèles à nous, par ta parole, par tes noms. Tu veux que nous connaissions ta volonté. Tu ne joues pas à la cachette, toi. Au contraire, tu te révèles librement, complètement. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Merci pour ce témoignage que tu as établi ici, à Beauport. Sois avec David, les autres membres du conseil, fortifie-les, garde-les et utilise-les. Et bénis le témoignage de cette assemblée dans la communauté. Et sauve, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.